en ce moment,
en suivant bien sûr le programme qui a été annoncé, l'après-midi, nous étudions la vie intérieure du chrétien. J'ai même intitulé ce sujet « L'ouverture à la vie intérieure du chrétien », ce qui signifie ceci, comment accéder à cette vie intérieure du chrétien. Nous avons défini la vie intérieure, nous l'avons vu avec des textes et des déclarations formelles et solennelles, peut-on dire, du Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme celle-ci par exemple, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cette autre déclaration aussi, Jésus parlant à son Père, à Dieu son Père, dans cette prière, en quelque sorte rétrospective et prophétique à la fois, appelée la prière sacerdotale, et disant ceci, moi, en eux, mes disciples, moi en eux, et toi, Père, en moi. Et ces déclarations solennelles, elles nous ont montré que la chose centrale, principale, le cœur de ce qui est appelé le mystère de Christ, il y a un mystère de Christ qui n'avait pas été révélé dans les âges précédents et qui l'a été dans les temps eschatologiques, les temps baffins, c'est-à-dire depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre. Le cœur, donc, du mystère de Christ, c'est cela, c'est la koinonia, je prends le mot grec, la communion, le Seigneur Jésus-Christ demeurant dans la personne du disciple. Comme l'ont dit d'excellents théologiens, il y en a de bons, hein. Je ne dis pas que tous les théologiens, il faut faire attention, il y a beaucoup de théologiens dont il faut laisser les travaux de côté, mais il y en a eu de bons, il y en a peut-être encore de bons, je ne sais pas. Parmi les théologiens, évidemment, il y a un peu de tout. Mais comme l'ont dit certains théologiens évangéliques, vraiment évangéliques, attachés au texte des Écritures, attachés aussi à la vérité, je veux parler, par exemple, de Gaston Fromel. Le christianisme, pouvait-il dire, le christianisme, c'est quelque chose qui s'expérimente du dedans. Vouloir le connaître du dehors, le juger du dehors, c'est impossible, parce que c'est du dedans. Il est, si vous voulez, comme un palais qui n'aurait aucune apparence à l'extérieur. Rien n'est fait par Dieu pour les apparences, n'oublions pas, n'aurait aucune apparence à l'extérieur, et il faudrait pénétrer à l'intérieur pour en voir les merveilles. Ainsi, c'est donc là le centre du mystère de Christ, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je pourrais même ajouter ceci, c'est que c'est ce qui fait que le christianisme, le vrai christianisme, je ne parle pas de celui qui est professé de diverses manières, selon des traditions, mais le vrai christianisme, celui en somme, et qui vient en ligne droite de Jésus-Christ, de son enseignement, et celui qui contient la personne même de Jésus-Christ, c'est en quoi le vrai christianisme, donc, se différencie de ce qu'on appelle les religions. Il y a quelquefois, n'est-ce pas, cette assertion qui est absolument inexacte, tout à fait fausse. Oh, toutes les religions sont bonnes. Hein, dit-on quelquefois, il suffit de croire, toutes les religions sont bonnes. C'est une parole de l'ennemi, bien sûr, pour amener la confusion. Mais aucune religion, et cela, quelqu'un qui aurait étudié particulièrement l'histoire des religions pourrait le confirmer, aucune religion ne contient ce que contient le christianisme, à savoir que celui qui est mort et qui est ressuscité dit « Demeurez en moi, vous, mes disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et quand je serai en vous, vous connaîtrez intérieurement, nous l'avons lu dans les textes, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous connaîtrez que je suis là. Vous connaîtrez ma présence en vous, vous la reconnaîtrez. Eh bien ça, il est évident qu'aucun initiateur d'aucune religion n'a pu dire une chose pareille. Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas, il ne s'agit pas là de religion, il s'agit de quelque chose qui est absolument la volonté de Dieu, la chose instituée de Dieu, et qui s'accomplit véritablement, et en s'accomplissant, eh bien, elle manifeste, elle montre quelle est la vérité. Nous avons vu aussi comment l'on pouvait envisager cette double et réciproque pénétration. Et nous en étions arrivés à reconnaître que la puissance de la foi entraîne la perfection de la communion, et que c'est la communion qui est elle-même le siège de la perfection dans les chrétiens, dans un chrétien. Le chrétien ne porte pas lui-même dans son être naturel, dans son être psychique, pour employer la traduction littérale d'un terme grec employé par l'apôtre Paul, dans son être psychique, il ne portera jamais la perfection. Ben c'est vouloir quelque chose d'impossible, car il est dit que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu, elle ne le peut pas, c'est pas possible, ne lui demandez pas. La chair, ça veut dire l'homme naturel, précisément dans son être naturel. Il ne faut pas le lui demander, et l'histoire, et notre époque le prouve surabondamment, c'est Einstein lui-même qui disait, il est plus facile de changer la nature du plutonium que de transformer le cœur de l'homme. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, d'absolument évident. Et notre époque a constaté quoi? Un décalage qui s'accentue constamment entre l'énormité des connaissances scientifiques et techniques, des possibilités techniques, et l'état moral de l'humanité. Par conséquent, l'être naturel, l'homme, n'est-ce pas, cet être naturel, quel homme, lorsqu'il vient au monde, et qui est appelé dans la Bible sous le vocable « chair », ce qui est né de la chair est chair, ça reste chair, ne lui demandez pas de la perfection, de revêtir la perfection. Et comment alors un chrétien arrivera-t-il à cette perfection que suppose et qu'exige la vie éternelle? Eh bien, il y arrivera. Pas lui, si je puis dire, mais celui qui est en lui, mais l'homme nouveau qui va se former en lui et qui sera à l'image de Christ. Si bien qu'on peut dire que la communion, c'est elle qui va permettre l'apparition de la perfection, non pas du fait de la chair, mais par un revêtement, j'emploie aussi autant que possible les notions et les mots de l'Écriture, un revêtement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous de Christ, revêtez-vous, revêtez l'homme naturel, ne le laissez pas tel qu'il est, revêtez-le de Christ. » Et maintenant, cette analyse étant faite, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi cette communion, si précieuse, si utile, peut être rompu ou alors reste hors de réalité, reste en dehors d'une réalisation objective. Nous allons lire un texte dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, je vais relire le contexte parce que sans quoi l'on ne risquerait de ne pas bien comprendre. Alors, chapitre 3, verset 14. Il s'agit de l'un des rares textes dictés par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas que j'établis une hiérarchie entre les textes bibliques, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des textes dictés. Tandis que dans les évangiles, les discours du Seigneur Jésus qui ont été rapportés le sont par le truchement, l'office du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Mais ici, il s'agit de textes dictés à Jean. Et vous allez le voir, d'ailleurs, c'est indiqué. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, deux points. Alors là, le Seigneur Jésus, qui apparaît à Jean, dicte ce texte. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen veut dire le vrai. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà donc un texte, le texte d'une lettre, qui est adressée par l'intermédiaire de Jean, l'apôtre Jean, et par Jésus-Christ, par conséquent, qui la dicte, à l'église de Laodicée. Mais à travers cette église, nous avons vu que les lettres, en général, les lettres du Nouveau Testament, avaient des premiers destinataires, et ces premiers destinataires représentaient un cas. C'était un cas. Ici, c'est un cas particulier. Et c'est en traitant ces cas-là, n'est-ce pas, des cas précis, que l'Écriture s'exprime à l'adresse, évidemment, des générations de croyants. C'est le verset 20 qui nous occupe surtout maintenant. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous retrouvez, n'est-ce pas, sous une forme imagée, c'est vrai que le Seigneur Jésus s'exprimait beaucoup en images, vous retrouvez, n'est-ce pas, la communion. Je souperai avec lui, je serai chez lui pour souper avec lui et lui, il soupera avec moi. Ça va de soi, notez-y. Si nous soupons ensemble, n'est-ce pas, nous pouvons le dire, je soupe avec quelqu'un et ce quelqu'un soupe avec moi. C'est l'image de la communion. D'abord le souper, c'est la scène, scène veut dire souper, c'est la scène, et ici, n'est-ce pas, c'est donc l'image de la communion. La communion qui, manifestement, est rompu ici avec les membres de cette église de Laodicée. N'oublions pas que c'est à une église que cela est adressé, c'est pas au monde entier, ce n'est pas à diverses personnes ou à des sociétés diversement composées, c'est à une église, l'église de Laodicée. Cette église s'est fourvoyée, parce que, pourquoi, vous me direz, une église locale peut-elle se fourvoyer? C'est parce que Dieu laisse l'homme libre. Oh, si vous saviez combien Dieu est, en somme, jaloux de la liberté qu'il a donnée à l'homme. L'homme aujourd'hui cherche souvent à reconquérir une certaine liberté, ce n'est pas la peine du côté de Dieu, il l'a. Dieu ne veut pas toucher à la liberté de l'homme, car s'il touchait à sa liberté, lui qui est le Tout-Puissant, que ferait-il? Il ferait tout simplement ceci, il transformerait l'homme, créature libre, il la transformerait en une sorte d'automate. n'est pas le moment d'étudier ici ce qui, dans la nature, par exemple, répond à cela. Mais l'étude des différents niveaux de création, des différents niveaux de la vie, par exemple la vie végétale, la vie animale, n'est-ce pas, et la vie dans l'homme, eh bien, montre bien, n'est-ce pas, qu'il y a l'espèce dans la vie végétale, c'est l'espèce qui domine. Lorsque vous avez, par exemple, un bouquet de roses, vous ne voyez pas en chaque rose, ou en chaque rosier, si vous êtes dans le jardin, vous ne voyez pas une individualité, vous ne voyez pas, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, j'emploie le mot, vous voyez un rosier parmi tant d'autres rosiers, peut-être beau, tout ça, mais c'est un rosier, il y a l'espèce qui domine là. Chez les animaux, l'espèce domine encore, mais commence tout de même, n'est-ce pas, déjà, à s'orienter vers le niveau de la personne, de l'individu. Chez les animaux, il y a des instincts qui sont imprimés dans l'être même de l'animal, n'est-ce pas, dans son espèce, et les animaux individuellement obéissent aux instincts de l'espèce qui, au dire de certains naturalistes, atteignent même la perfection. Mais quand on arrive dans l'homme, on dit quelquefois l'espèce humaine. C'est une expression qu'on emploie, mais qui n'a pas sa réalité. Il y a bien une humanité, mais il n'y en a qu'une. Et dans l'humanité, chacun est une personne. Par conséquent, n'est-ce pas, l'individualité, la personne, là, est la chose principale, essentielle dans l'humanité. Et cela, Dieu l'a voulu, et il sauvegarde cela. Il sauvegarde. Il ne veut pas faire, en somme, de l'homme, n'est-ce pas, une espèce qui serait automatiquement régie par de sortes d'instincts ou des impératifs. Dieu pourrait très bien faire peser des impératifs par sa puissance. Il le peut, bien sûr. Ça ne serait pas Dieu s'il ne le pouvait pas. Eh bien non, Dieu s'y refuse. Pas d'impératif sur l'homme. L'homme doit le trouver, l'aimer, le servir, dans l'exercice de la liberté qui lui est laissée. Alors, donc, ici, nous avons une église qui s'est fourvoyée. Et en effet, cette église, n'est-ce pas, les gens de cette église sont ni froids ni bouillants, ils sont tièdes. Et cela, Dieu n'aime pas ça. Il faut être d'un côté ou de l'autre. Il faut être froid ou bouillant. Si quelqu'un est froid, on peut toujours espérer qu'il deviendra bouillant. Mais s'il est bouillant, s'il a été bouillant, et qu'il s'est refroidi, hein, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Plus difficile, on ne sait pas s'il redeviendra bouillant. Et puis, cette église, les membres de cette église, en général, ont pu dire, je suis riche, je me suis enrichi, n'est-ce pas? Ils ont évidemment été gagnés par une espèce d'orgueil, d'une sorte désagréable, qu'on appelle quelquefois... par un euphémisme bizarre, n'est-ce pas, l'orgueil spirituel, alors que l'orgueil n'est jamais chose spirituelle, mais enfin, disons, l'orgueil au niveau, si vous voulez, de l'esprit. Alors, ils ont été gagnés par cela, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et il en est découlé quoi? Il en est découlé que celui qui devrait être à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. À la porte de quoi? Mais à la porte de la vie, à la porte de la personne même, de ses membres d'église, de beaucoup, enfin, il n'y avait peut-être pas la majorité, mettons. Enfin, je me tiens à la porte de ses membres d'église, je suis à la porte de leur vie, à la porte de leur cœur, je ne suis pas dedans. Et pourquoi le Seigneur n'est-il pas au-dedans? Il devrait être au-dedans, c'est sa place. Voyez-vous, il veut entrer. Je me tiens à la porte et je frappe. Ainsi donc, là, il y a manifestement une rupture de communion. Il n'y a pas communion. Jésus se tient à la place. Il la redemande, il la désire. Mais, attention, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il faut que... la personne même ouvre la porte au Seigneur. Le Seigneur ne force pas la porte. Il ne force pas la porte, il faut qu'on la lui ouvre. Si on la lui ouvre, il entrera avec joie. Et la porte peut donc être fermée, la porte des vies, la porte des cœurs peut être fermée au Seigneur pour des raisons diverses. Des raisons que je ne vais faire ici que tout d'abord vous énoncer. C'est d'abord, disons, l'état de péché, un état de péché ou un état, si vous voulez, d'iniquité qui se maintient, qui est là. C'est pas un état de péché, un état d'iniquité. Vous savez que le Seigneur a signalé cela. Il y a des gens qui me diront « Seigneur, Seigneur !» et à qui je devrais dire « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a donc cela. Il y a aussi ce que l'Écriture appelle la négligence du salut. Négligence du salut. Des gens qui sont entrés dans l'expérience du salut, et qui néglige ce salut, comme s'il n'était pas une chose essentielle et précieuse. La négligence du salut, cela vient par ce que l'apôtre Paul appelle dans Romains 12 la paresse. Il y a en effet une paresse d'esprit qui peut très bien nous amener à négliger le salut. Il y a dans la négligence du salut celle de la prière, celle de la lecture et de la méditation des Écritures. Si l'on ne se nourrit pas, évidemment, n'est-ce pas, on risque de s'étioler. Quelqu'un qui jeûnerait, qui ne mangerait pas, eh bien son corps physique, évidemment, au bout de peu de temps, présenterait un état particulier de maigreur, n'est-ce pas, et d'abolition des forces normales. Il peut y avoir aussi le découragement. Il arrive, n'est-ce pas, que le découragement nous saisisse. C'est tellement vrai, Dieu le sait tellement bien, qu'il a dit « Fortifie-toi et prends courage. » Prends courage. Attention, il y a des prises de courage, n'est-ce pas, nécessaires. Et c'est ça qui est viril chez l'homme. Et l'homme, je veux dire, chez l'homme, l'être humain, n'est-ce pas. C'est ça qui est viril. De prendre courage, le découragement. Il y a aussi une repentance insuffisante au départ, une repentance insuffisante au départ de l'expérience chrétienne. La repentance, c'est quelque chose qui paraît désagréable, a priori, vu simplement par le mot qui est usé au cours des siècles. Mais la repentance est une chose excellente, une chose qui libère, une chose dont l'homme a besoin précisément pour que son être naturel soit suppléé par un être nouveau. Il a besoin de cela. Il y a aussi le doute ou l'insuffisance de foi, le manque de foi, le doute, l'insuffisance de foi, je mets ça ensemble. Il y a le manque de persévérance dans la pratique des commandements de Dieu, manque de persévérance. Il y a l'esprit de jugement. Et enfin, je citerai aussi des attachements à des biens ou des préoccupations terrestres. Je pense à ce mot de la parabole du Seigneur Jésus en Matthieu 13, la parabole qui fait intervenir une semence tombée en différents terrains. Et la semence, qui est la parole de Dieu, tombe dans un terrain qui n'a pas été suffisamment défriché, labouré, et voici que la semence a donné naissance à une plante nouvelle s'y est présentée. Mais les ronces vont plus vite. Les ronces reprennent, vous savez, vous avez vu cela, n'est-ce pas, dans un jardin. On voudrait, n'est-ce pas, n'avoir que les plantes qu'on y a mis, mais voici que les ronces viennent, étouffent la plante nouvelle qui est venue de la semence jetée, et le Seigneur nous interprète lui-même cette parabole en nous disant que les ronces et les épines, ce sont les soucis de ce siècle qui étouffent la foi. Et pourtant, le chrétien doit aller cela l'Écriture le dit, de progrès en progrès. Il doit normalement suivre une voie de perfectionnement, c'est-à-dire d'avancement vers un état de perfection que son être naturel ne va pas lui-même revêtir, mais son être naturel va être surclassé par l'homme nouveau qui s'est formé en lui et lequel fera lui apparaître les perfections divines de Christ. Il sera à l'image de Christ. La nouvelle naissance, vous savez qu'on devient chrétien par ce que le Seigneur Jésus a appelé la nouvelle naissance, eh bien, cette nouvelle naissance, qui est d'ordre spirituel, tout comme la naissance de chair, la naissance, notre naissance, n'est-ce pas, suppose un développement progressif. C'est la loi générale de la vie, un développement progressif vers un état, un certain état. Nous appelons, en ce qui concerne, n'est-ce pas, notre vie corporelle, nous appelons cet état l'état adulte, l'état adulte. Eh bien, il y a aussi, dans la vie chrétienne, un développement progressif vers une stature qui est appelée la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est-à-dire le même développement spirituel et moral, bien sûr, qu'avait le Seigneur Jésus lui-même. Pour situer ce développement depuis l'enfance jusqu'à l'état adulte, je vais vous citer l'Épître aux Hébreux, chapitre 5 et verset 11. Chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à croire. À comprendre, pardon. Lents à comprendre. Ça, c'est dit, n'est-ce pas, aussi à des églises. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a ici un développement qui ne s'est pas fait normalement chez les correspondants des auteurs de cette épître, ça ne s'est pas fait normalement, il y a donc, n'est-ce pas, quelque chose d'anormal, mais ce qui est normal, c'est le développement depuis l'enfance jusqu'à l'état adulte. Les progrès, le perfectionnement, nous pourrions le situer par des textes aussi, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voyez, l'apôtre Paul n'hésite pas à maintenir cette prière devant le Seigneur, le perfectionnement des églises, des chrétiens individuellement, auxquels, n'est-ce pas, auprès desquels il a exercé son ministère. Et enfin, à tout chrétien, le Saint-Esprit a généralisé cela. Votre perfectionnement, dans l'Épître aux Éphésiens, cette fois, au chapitre 4, à partir du verset 11, et il a donné, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, le perfectionnement, voyez-vous, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance, c'est la connaissance intérieure. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, n'est-ce pas, l'état adulte, l'état d'homme fait, la mesure, l'état d'homme fait, à l'état, voyez, c'est, l'apôtre Paul le dit, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le perfectionnement des saints est donc quelque chose de progressif. Les saints, ne nous étonnons pas de ce terme ici, il veut dire, non pas ceux qui sont déjà les saints selon une certaine notion, c'est-à-dire des gens irréprochables à tous égards, n'est-ce pas? Mais il s'agit ici des gens consacrés, c'est-à-dire des membres de l'Église, qui tous, même s'ils sont encore des enfants dans la foi, sont des consacrés, des saints veut dire consacrés, mis à part pour Dieu, consacrés à Dieu. Dieu nous demande, en somme, de croire. Il nous demande de prier, de le prier, avec liberté, avec joie. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Et d'aimer, il nous demande d'aimer. Il nous demande de louer. Il nous demande d'obéir. Il nous demande aussi de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à l'être naturel. N'est-ce pas ? Pas de renoncer, n'est-ce pas, à vivre, mais de renoncer à cet être naturel, parce qu'il va en faire venir, nous venons de le voir, un autre en nous, un autre homme nouveau, un homme nouveau, n'est-ce pas, qui va atteindre, et promis à atteindre, la stature parfaite de Christ. Il nous propose une voie de sanctification, et tout cela, comment cela peut-il se réaliser? Tout cela par sa force à lui. Il ne nous dit pas, faites usage de votre force. Ce serait, n'est-ce pas? Ce serait, ça reviendrait à dire ceci. Eh bien, je vous demande de croire, de prier, d'aimer, de porter votre croix, de réaliser des progrès, de marcher dans la voie de la sanctification avec la force naturelle qui est en vous, avec la force de votre être naturel, de votre être psychique. Ce qui reviendrait à dire, l'être psychique alors est capable d'un perfectionnement, il est capable lui-même d'arriver, n'est-ce pas, à la perfection. Non pas, n'est-ce pas, mais par la force de Dieu, par sa force à lui, sa force qui est dispensée en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été celui qui a réalisé une chose magnifique que nous avons eu l'occasion d'étudier, qui est tellement belle à étudier, l'expiation. L'expiation. C'est très beau, vous savez, cette grande fresque qui nous montre le pardon de Dieu sur la base d'une expiation dont il fournit lui-même, hein, le sacrifice, parce qu'il faut un sacrifice, il fournit lui-même le sacrifice. C'est magnifique à étudier cela. Alors Dieu, n'est-ce pas, nous a donné Jésus-Christ qui a réalisé cela. Ça s'appelle en gros la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a une rédemption. Mais Jésus-Christ est allé à la droite de Dieu, mais pas pour rester inactif. Jésus-Christ, après avoir fait cela, pourrait peut-être laisser les hommes en possession de son évangile, en possession de la force même du Saint-Esprit, et puis attendre. Mais pas du tout. Il est pendant tout le temps de l'Église, c'est-à-dire maintenant encore. Il est, n'est-ce pas, celui qui se tient à la porte de quelqu'un qui l'a en somme mis dehors. Et il frappe à la porte. Il est celui qui va par monts et par veaux chercher la brebis perdue selon une parabole si belle. La brebis perdue, la centième brebis. Les 99 brebis qui sont supposées, n'est-ce pas, l'avoir suivi, sont là, forment un troupeau cohérent. Ben, il laisse ce troupeau à un certain endroit, et lui, il va en course, à travers vallées, à travers les monts, il monte, il descend, il cherche, il appelle sa brebis perdue, pour la ramener au troupeau. Ben, voilà ce que fait le Seigneur. Le Seigneur ne cesse d'agir pour que l'homme reine, saisis en lui la rédemption et par la rédemption la vie véritable, cette vie véritable, car il est source de vie, de même que mon Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, Et la vie que le Fils a en lui-même, c'est une vie qu'il donne, une vie qu'il répand, qu'il prend plaisir à répandre. Voilà ce que Dieu nous demande, mais il nous demande cela à la condition, et je reviens à la notion de liberté, à la condition que nous le voulions, à la condition que nous le désirions, et par conséquent, à la condition que nous y appliquions notre foi. Car la foi n'est pas seulement une adhésion, ce n'est même pas la foi qui sauve, ce n'est pas une adhésion à une doctrine. Ça ne sert à rien, l'adhésion à une doctrine, c'est pas avec ça. Alors là, le christianisme serait relégué à l'état d'une religion sans vie, sans force. Non, la foi, c'est précisément ce qui va permettre à l'homme de manifester sa volonté, de manifester son désir, de manifester toutes les aspirations nouvelles en lui. La foi a une force, puisque Jésus-Christ en a parlé comme d'une sorte de violence. C'est l'homme qui fait, en somme, violence, n'est-ce pas? Une violence pour entrer dans le royaume de Dieu, et Dieu manifeste sa gloire en répondant à notre foi. Nous savons, n'est-ce pas, en somme, chose très simple, nous avons ceci, Dieu existe. Bien, il est là, il a introduit dans le monde, avec son Fils, avec l'œuvre de son Fils, il a introduit la rédemption. La rédemption, elle est là à la disposition de quiconque la désire. Elle ne s'impose pas, mais elle est là à la discrétion de celui qui le veut. Comment en être bénéficiaire? Comment la saisir? Uniquement la foi du cœur. Alors, lorsque la foi du cœur s'exerce, alors la foi du cœur va s'exercer la foi, n'est-ce pas, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle va s'exercer donc parce que la parole de Dieu va la solliciter, la foi. L'évangile étant annoncé, la foi, va, n'est-ce pas, pouvoir sortir du cœur, se manifester, aller vers Dieu. En somme, il y a donc la foi, la parole de Dieu, et puis alors il y a Dieu. Alors lorsque la foi se manifeste, Dieu, conformément à tout ce qui est écrit, tout ce qu'il a promis, répond. Il répond à la foi dans le cadre de sa promesse. Et les choses qui par conséquent sont espérées, comme on disait dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, celles qui sont l'objet de la foi, n'est-ce pas, et qui sont bien sûr conformes à la parole, sont reçues. Elles sont reçues et l'homme en est donc pourvu. Cela s'appelle, en gros, d'un mot grec qui s'appelle charis, qui est charis, et qui signifie grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit que la vérité est venue par Jésus-Christ, mais la vérité, ce serait très beau d'avoir la vérité, n'est-ce pas, et de croire à la vérité, mais de ne pas pouvoir vivre cette vérité. Elle est faite pour être vécue, la vérité. Ce n'est pas un concept théorique et philosophique qui reste extérieur à l'homme. Elle est faite pour être vécue. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Je suis la vérité et la vie. Alors, cette vérité, si elle était venue comme un concept théorique, philosophique, nous pourrions en être réjouis. Il y a des hommes qui sont réjouis d'entendre l'exposé de la vérité. C'est réjouissant, la vérité, je vous assure. Quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? La vérité de Dieu, il y en a une, il n'y en a pas 36, il y en a qu'une. Mais il est dit par Jean que la vérité est venue avec la grâce, ou la grâce avec la vérité. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la charis, la force que Dieu, n'est-ce pas, va joindre à cette vérité, de façon à ce que l'on puisse vraiment saisir la vérité et la vivre, et entrer dans vraiment la marche, comme dit Jean, n'est-ce pas, ceux qui marchent dans la vérité, marcher dans la vérité, ou marcher dans la lumière, voilà en définitive ce que Dieu veut. Eh bien, nous arrêterons notre étude là ce soir.